VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 16 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Des manifestations hier en Mauritanie en faveur de l'exécution d'un blogueur condamné à mort pour blasphème envers l'islam.
En République démocratique du Congo, discours hier du président Joseph Kabila. Il refuse de s'écarter de l'accord politique conclu au dialogue boycotté par le Rassemblement.
Au Maroc, une trentaine de chefs d'État africains se réunissent aujourd'hui en sommet à Marrakech, en marge de la COP22.
Ici aux États-Unis, Rudy Giuliani, ancien maire de New York, et John Bolton, ex-ambassadeur à l'ONU, seraient les principaux candidats au poste de secrétaire d'État.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Des centaines de Mauritaniens ont manifesté hier devant la Cour suprême à Nouakchott pour réclamer l'exécution d'un blogueur condamné à mort pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers l'islam. Le point avec Nanit Talani.
Les manifestants répondaient à l'appel du forum des oulémas et imams. Devant la Cour suprême, ils ont entonné des chants religieux et des slogans contre l'accusé, qualifié d'ennemi de l'islam. La Cour suprême examine le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mohamed, détenu depuis 2014 pour un article sur Internet considéré comme blasphématoire. La défense du blogueur a demandé à la Cour d'entendre son repentir. En première instance, l'accusé a été reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort le 24 décembre 2014 par la Cour criminelle de Ouagadougou. Ce verdict a été confirmé par la Cour d'appel qui avait requalifié les faits en mécréance, une accusation moins lourde, puis avait renvoyé son dossier devant la Cour suprême. C'est le premier cas de condamnation à mort pour apostasie en Mauritanie, où la peine capitale n'a pas été appliquée depuis 1987.
Au Nigeria, l'ONU tire la sonnette d'alarme. 14 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence et 75 000 enfants risquent de mourir de faim dans quelques mois. De son côté, Abuja a prévenu d'une famine imminente dans le pays. Anastasie Toudiech.
D'après Peter Lundberg, coordinateur de l'action humanitaire pour les Nations Unies au Nigeria, 14 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont 400 000 enfants dans une situation critique et 75 000 qui risquent de mourir dans les prochains mois. Il a donc lancé un appel aux donateurs à mettre la main à la poche. Pour l'instant, l'ONU n'a recueilli que 180 millions de dollars, alors que les besoins se chiffrent à 485 millions de dollars. Abuja voudrait faire plus pour les millions de déplacés par les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno. Mais avec la chute du prix du baril, le géant pétrolier est entré en récession. Le pays manque de devises pour importer sa nourriture. Le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a demandé lundi aux producteurs de céréales nigérians de vendre sur le marché national au lieu d'exporter vers les pays voisins. Selon lui, le Nigeria pourrait être en situation de famine d'ici janvier prochain.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a affiché hier sa détermination dans la crise politique liée au report s'inédier de l'élection présidentielle. Il a refusé de s'écarter de l'accord politique conclu avec une partie minoritaire de l'opposition alors que son mandat expire en décembre. L'accord constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes, a déclaré M. Kabila lors d'un discours solennel aux députés et sénateurs congolais réunis en congrès à Kinshasa, capitale de la RDC. Cet accord est rejeté par le rassemblement réuni autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Soudan du Sud, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés distribue des produits vitaux à plus de 6000 familles vulnérables, bloquées depuis 6 mois selon l'HCR par les combats dans l'état de Yei River. Ces combats opposent les forces du président Salva Kiir à des partisans armés de son ex-vice-président Riek Machar.
Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent aujourd'hui en sommet à Marrakech, en marge de la COP22, à l'initiative du Maroc, qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement, mais aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, ce sommet de l'action africaine, selon ses organisateurs, veut donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et à la construction d'un modèle de développement durable sur le continent. Pour les pays du Sud particulièrement exposés au réchauffement, il s'agit désormais de pouvoir bénéficier d'un soutien financier et technique urgent pour renforcer leurs capacités et s'adapter au changement climatique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et si aux États-Unis, Donald Trump et Mike Pence se sont rencontrés hier à New York pour discuter des candidats aux postes clés de leur future administration. Précision de Jean-Roger Bion.
Messieurs Trump et Pence, qui assumeront le pouvoir le 20 janvier, ont plus de 4000 emplois à pourvoir. Mais pour l'heure, l'accent est mis sur les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, ministre de la Justice et secrétaire à la Sécurité intérieure. Il s'agit là de ministères qui seront en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Mais aucune annonce n'a été faite à la fin des consultations entre le président élu et son numéro 2. Selon certains de leurs collaborateurs, Rudy Giuliani, âgé de 72 ans pour être nommé secrétaire d'État, ce farouche partisan de Trump n'a aucune expérience en politique étrangère, fait-on remarquer. Mais Giuliani s'est rendu célèbre il y a plus d'une décennie quand il était maire de New York lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il est devenu depuis un symbole de la détermination des États-Unis à défaire le terrorisme islamiste. Serait également sur la liste John Bolton, ancien ambassadeur de George W. Bush à l'ONU. Ce faucon républicain était, pour rappel, un chaud partisan de l'intervention américaine en Irak. Trump a toujours soutenu, lui, qu'il était contre.
Toujours aux États-Unis, la maire de Clay, une petite commune de Virginie-Occidentale, a démissionné hier. La raison, elle avait commenté, selon la presse américaine, une publication raciste décrivant la première dame Michelle Obama comme un singe en talons. Ce sera rafraîchissant d'avoir une première dame élégante, belle et pleine de dignité à la Maison Blanche. J'en ai marre de voir un singe en talons, aurait écrit sur sa page Facebook Pamela Ramsey Taylor, qui travaille dans le comté de Clay, en réaction à l'élection de Donald Trump.
Cette attaque ciblant l'épouse du premier président noir des États-Unis, Michelle Obama, a visiblement enchanté la maire de la commune Beverly Whaling, qui a répondu sur le réseau social « Tu me fais plaisir, Pam ». Faisant face à une pluie de critiques, la maire a ensuite présenté sa démission ainsi que ses excuses selon la chaîne de télévision locale. Pamela Ramsey Taylor a, elle, été remplacée à la tête de l'ONG locale dont elle était la directrice, a rapporté le Washington Post.
Le président syrien Bachar al-Assad s'est dit prêt mardi à coopérer avec le futur président américain Donald Trump dans la lutte contre les islamistes, ajoutant qu'il fallait attendre de voir si le prochain locataire de la Maison-Blanche allait changer de la politique américaine vis-à-vis de la Syrie. Réagissant pour la première fois à l'élection du milliardaire à la présidence américaine il y a une semaine, Bachar al-Assad a jugé que Donald Trump avait tenu des propos prometteurs sur la nécessité de combattre les islamistes en Syrie.
La Russie a mené hier ses premiers raids aériens sur la Syrie à partir de son porte-avions en Méditerranée. Pendant ce temps, l'armée de l'air syrienne frappait pour la première fois depuis un mois des quartiers résidentiels d'Alep tenus par les insurgés. Ici à Washington, le département d'État a condamné les frappes inexcusables menées par la Russie et par le régime syrien. Moscou a réagi, et je cite encore, « une rhétorique basée sur des mensonges ».
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé un cessez-le-feu à partir de demain jeudi au Yémen et un nouveau gouvernement d'union nationale. Mais la proposition a aussitôt été rejetée par le gouvernement, Eric Manirakiza.
Les rebelles chiites houthis sont favorables au cessez-le-feu, a déclaré M. Kerry à l'issue d'une brève visite hier à Abu Dhabi. Il a indiqué avoir longuement discuté à Oman avec des négociateurs houthis venus spécialement le voir. Le chef de la diplomatie américaine qui va quitter ses fonctions en janvier prochain a également évoqué la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale à Sanaa avant la fin de l'année. Mais le camp du président Abd Rabo Mansour Hadi, qui ne semble pas avoir été consulté, a vivement réagi. Abdelmalek Al-Mekalfi, ministre des Affaires étrangères, a dit que le gouvernement n'est pas au courant et n'est pas tenu par ses déclarations. Six tentatives de cesser le feu ont déjà échoué au Yémen. La dernière en date, le 20 octobre, sous l'impulsion de Washington et de l'ONU, avait volé en éclats dès son entrée en vigueur. Hier mardi, la grande ville Taïs, dans le sud-ouest, a connu de violents combats qui ont fait au moins 39 morts.
L'Assemblée générale de l'ONU a dénoncé hier, dans une résolution, les violations des droits de l'homme en Crimée depuis son annexion en 2014 par la Russie, en particulier les discriminations envers les Tatars et d'autres minorités. Le texte, présenté par l'Ukraine avec le soutien de 40 pays dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, a été adopté par 73 voix pour, 23 contre et 76 abstentions sur les 193 membres de l'Assemblée. La Russie, mais aussi la Chine, la Syrie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Serbie et le Venezuela ont notamment voté contre. De nombreux pays d'Amérique latine ou d'Afrique se sont abstenus.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En RDC, dans un document publié hier, l'ONG britannique Global Witness estime qu'un accord tripartite de janvier 2015 aurait fait perdre 880 millions de dollars de royalties initialement dus à la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE. Selon Global Witness, une société immatriculée aux îles Caïmans, une filiale du groupe Fleurette de Dan Juttler, en a plus profité. Au Nigeria, la valeur des paiements bancaires via les services de technologie financière a fortement progressé au cours du troisième trimestre 2016. Le montant de ces paiements sur trois mois a atteint 58,9 milliards de dollars en septembre. Il est en hausse de 23% comparé au deuxième trimestre qui a été de 48,5 milliards de dollars, en évolution de 11% sur celui du premier trimestre. Le succès des distributeurs automatiques traduit une évolution des banques pour toucher un nombre plus grand de clients et réduire les coûts liés à la multiplication des agences bancaires. Enfin, Adenia Partners, la firme de private equity qui investit dans certaines des entreprises prometteuses d'Afrique subsaharienne, annonce avoir levé 180 millions d'euros pour son quatrième fonds, ce qui représente 90% de la somme totale visée. Le fonds ciblera des entreprises générant un chiffre d'affaires entre 5 millions et 40 millions de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements entre 1 et 7 millions de dollars. Il cherchera à investir dans divers secteurs dont les biens de consommation, les services aux entreprises, l'industrie, les services financiers, les technologies d'information et de communication, les télécommunications et l'hôtellerie.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Série de matchs amicaux ce mardi sur la planète football.
Bien parti pour la qualification mondiale 2018 avec deux succès en deux matchs dans le groupe A, la Tunisie a été décevante lors de son amical face à la Mauritanie 0-0. Cette rencontre s'est terminée à 10 contre 10. Autre match nul, un partout entre le Gabon, tenu en échec par les Comores. Djamel Bakar a ouvert le score pour les Comoriens, puis les Gabonais auraient pu perdre puisque Ben Nabouane a tiré un pénalty sur la barre. Quant au Kenya, il bat le Libéria 1-0. Allez avec vous Idrissa, quelques résultats des matchs en Europe.
France-Côte d'Ivoire à Lens, où une minute de silence a été observée en la mémoire de Laurent Pokou, l'icône du football ivoirien, décédé dimanche à l'âge de 69 ans. Score final 0-0. Italie-Allemagne 0-0 également et Angleterre-Espagne 2-0. Maintenant parlons de la deuxième étape du Tour cycliste du Rwanda.
Le Rwandais Valence Ndayisenga remporte en solitaire cette étape entre Kigali et Karungi. Le Kenyan Kangansi arrive deuxième à 1 minute 06. Joseph Areruya perd la première place au classement général au profit de Ndayisenga. À suivre ce mercredi la troisième étape entre Karungi et Rusizi. Enfin Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto, Cleveland, 117-121, Atlanta, Miami, 93-90, Charlotte, Minnesota, 115-108, Chicago, Portland, 83-63.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a prononcé hier un discours devant le Parlement. Il a déclaré que son avenir politique est, je cite, « réglé par la Constitution ». L'opposition, quant à elle, rejette ses propos selon lesquels l'accord politique issu du dialogue est la seule feuille de route pour conduire le pays aux élections. M. Kabila a promis de nommer sous peu un nouveau Premier ministre. Voici à ce sujet un dossier réalisé par Eddy Issango.
Étienne Tshisekedi, leader du Rassemblement, la plus grande plateforme opposée au prolongement du mandat du président Joseph Kabila, a réagi hier tard. Pour lui, respecter la Constitution, c'est respecter les délais et les nombres des mandats présidentiels. C'est ce qu'explique un des sages de sa plateforme, Franck Diongo.
Lorsqu'il ne dit pas explicitement qu'il quitte le pouvoir le 19, nous les tenons à l'œil parce que l'explication qu'il voudrait donner de là, c'est vouloir nous opposer les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais nous demandons, nous avons relevé l'article 220 qui parle de la durée et les nombres du mandat du président de la République. Il ne le viole pas à la date de l'expiration de sa mandature, c'est-à-dire le 19 décembre 2016. Les rassemblements restent ouverts à la médiation de la CENCO pour montrer que nous estimons, et que Brent Spiegel l'avait dit, le dialogue reste la voie indiquée pour amener la réponse aux problèmes du pays. Mais néanmoins, nous avons déploré un discours agressif, belliqueux et même injurieux. Au terme désagréable, il n'y a pas l'approche d'une réconciliation.
Pour sa part, la coalition des Congolais pour la transition se veut plus intransigeant. Déclaration de son président, Emery Damien Kalouira.
Monsieur Kabila a décidé de déclarer une guerre ouverte avec le peuple congolais qui, à plus de 98%, ne jure que par le changement de l'administration de Monsieur Kabila. Dans ce discours, Monsieur Kabila insulte les jeunes Congolais en les qualifiant d'être des jeunes manipulés. Et le peuple ne lui demande qu'une seule chose, rendre sa démission. Et s'il ne veut pas rendre sa démission, la coalition des Congolais pour la transition et toutes les forces alliées avec lesquelles nous sommes en pleine consultation, allons nous donner la mission constitutionnelle en vertu de l'article 64 de la Constitution pour les mettre hors d'état de nuire.
Les évêques catholiques qui menaient jusque-là une médiation pour un dialogue plus large n'ont pas voulu commenter après les durcissements des positions de deux camps.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme a publié un rapport sur la situation au Burundi, rapport dans lequel elle exhorte la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard. Le document fait état de 1000 morts, 8000 détenus, 300 à 800 personnes portées disparues et plus de 300 000 Burundais contraints à l'exil. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
La FIDH et son organisation ITK au Burundi sont un peu plus clairs. L'Union africaine et les Nations unies sont appelées urgemment à déployer une mission d'imposition de la paix pour protéger les populations civiles et relancer le dialogue politique sous la médiation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. C'est ce qui est ressorti dans un rapport publié par la FIDH qui parle des crimes qui sont à l'œuvre des forces du régime et du parti CNDD-FDD au pouvoir. Mais le rapport relève également des exactions commises par des groupes armés Forebu, Force républicaine du Burundi, et Red Tabara, la résistance pour un état de droit. Mais pour le parti Uiprona, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, ce rapport vient corroborer leurs analyses qui datent de très longtemps. Tassien Siboman.
Je pense qu'il est grand temps que des preuves contraires soient fournies. Faute de quoi, il est difficilement impensable que des organisations internationales, des experts onusiens, soient toujours taxés de menteurs ou de manipulés. Sans être précis quant aux chiffres, nous avons vécu, nous continuer à vivre ces violations massives des droits de l'homme. De toutes les manières, un millier de personnes qui auraient été tuées, ce n'est pas de l'exagération. C'est l'isolement complet du Burundi. À quoi veut-on en arriver ?
Le président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, certains signes sont perceptibles à travers le langage utilisé par quelques dirigeants du parti présidentiel. Zénon Manirakiza.
D'ores et déjà que ces chiffres sont avancés, il appartient au gouvernement de prouver le contraire. Un risque de génocide, le gouvernement ne pourrait pas se dédouaner sans preuve contraire pour les cas déjà cités. Mais l'accord d'Arusha avait prévu l'instauration d'un observatoire de lutte et de prévention contre le génocide. Cet observatoire n'a pas été mis en place. Est-ce une omission involontaire ou volontaire?
Le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzebonariba, n'était pas disponible quand nous avons voulu connaître sa réaction. Mais le porte-parole adjoint du président burundais, Jean-Claude Nzako, affirme que ces organisations sont continuellement manipulées par l'opposition et rien d'étonnant quand tel rapport arrive au moment où la paix est totale sur toute l'étendue de la République du Burundi. Mais ces organisations ne pourront jamais aller à l'encontre de la volonté du peuple, selon toujours le porte-parole adjoint du président burundais. Pour la FIDH, le régime de Bujumbura s'est lancé dans une fuite en avant criminelle pour conserver le pouvoir, selon le président de la FIDH, Dimitris Christopoulos. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Mali, après la mise en place du Congrès pour la justice dans l'Azawad, son président Ama Ag Mahamoud est arrivé à Bamako à la tête d'une forte délégation. Il a accordé une interview à notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est à partir de la chambre d'un hôtel de la capitale malienne que le nouveau patron du Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, suit les activités sur le pont des martyrs qui donne une large vie. Le président du CJA reconnaît la création tardive de son association, Ama Ag Mahamoud.
Mais vous avez raison, c'était créé à la dernière minute, mais nous le créons parce que nous nous sommes rendus compte qu'après un an et demi, l'accord n'est pas appliqué. Et en plus, nous avons entendu les fracas des armes à Kidal pendant plus d'un mois. Le déclic de tout cela, c'est venu avec les autorités transitoires, parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas été consultés pour la mise en place des autorités. Et si on loupe le bon choix des responsables pour les autorités, l'accord va être encore en panne davantage.
Le Congrès pour la justice d'Al-Azawad est une dissidence de la CMA, mais qui ne veut pas rester en marge de l'application de l'accord d'Alger issu du processus de 2015.
Et aujourd'hui, on ne parle plus de mouvement en réalité. Ce n'est plus les mouvements qui sont concernés, ce n'est même pas l'accord, les négociations qui sont concernées, c'est l'application de l'accord. Et dans l'application de l'accord, il faut régionaliser, et c'est ce qu'on reproche justement au mouvement, parce que le mouvement prennent des décisions à un niveau très élevé qui ne sont pas du tout en rapport avec la réalité du terrain et ce sont ces erreurs que nous voulons rectifier.
Pour ce qui est des communales du dimanche 20 novembre prochain, Ama pense que le scrutin ne sera pas sécurisé dans certaines localités au nord du Mali.
On braque les voitures sur les chemins. Il faut bien aller à un centre de vote. Les gens viennent de loin pour aller à un centre de vote. Ils font deux jours, trois jours de marche à chameau, en voiture, etc. On braque les voitures. Tout à tout. Le groupement est visé par les terroristes. Vous comprendrez bien qu'un citoyen ne risquera pas tout ça pour aller jeter un bulletin dans l'urne. Mais aussi, il faut veiller à ce que les choix de listes soient corrects, soient l'émanation des populations et non pas l'émanation des officines qui sont à Bamako ou à Kidal, etc.
Parlant du dialogue national, le Congrès pour la justice dans l'Azawad préconise une conférence nationale.
Parce que, vous voyez, l'accord ne peut pas régler les problèmes. L'accord, c'est pour la cessation des hostilités. Mais les vrais problèmes aujourd'hui, la remise en état des institutions. Il faut une véritable révision constitutionnelle dans notre pays. Une véritable organisation administrative, politique, sociale, culturelle du pays. Et là, nous sommes prêts à apporter notre contribution.
Le CJA est une association de la tribu Kelantasar, une communauté qui vit dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. C'est pourquoi, du 1er au 4 décembre prochain, il tiendra son premier congrès à Razalma dans la région de Tombouctou, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Tournée d'adieu en Europe du président Barack Obama, il s'est déplacé pour rassurer, dit-on, les alliés des États-Unis, ébranlés par l'élection de Donald Trump qui sera investi le 20 janvier prochain ici à Washington. Mardi soir à Athènes, la police a tiré des gaz lacrymogènes et grenades assourdissantes pour disperser un cortège de 2500 manifestants, parmi lesquels 400 semblaient appartenir à la mouvance anarchiste qui tentait d'approcher du centre-ville où dînait M. Obama avec ses hôtes grecs. Auparavant, toujours à Athènes, M. Obama avait invité l'Europe à être forte et unie. Vendredi, des dirigeants européens de premier plan, comme le Français François Hollande, la Britannique Theresa May et l'Italien Matteo Renzi, doivent se joindre en Allemagne à M. Obama et à la chancelière Angela Merkel pour une dernière rencontre. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris une politologue, chercheuse associée à l'IRIS et auteure d'un livre intitulé « Trump, l'onde du populisme », Marie-Cécile Nave.
En tout cas, c'est un signe fort qui est adressé par le président américain à l'Europe, à l'Union européenne. Ça ne suffira sûrement pas, mais l'idée qu'il y ait une continuité du pouvoir et que le message que va porter Obama, c'est que finalement les institutions américaines vont quand même en partie résister au changement de majorité politique, c'est un signe fort et qui peut aussi avoir une influence sur la future administration. Donc je pense qu'il faut le voir comme un message d'optimisme pour l'Europe.
Est-ce que selon vous, le choix de la Grèce et de l'Allemagne en Europe a une signification particulière? Il ne va pas à Varsovie, par exemple?
Moi, je ne sais pas si ces deux pays ont été choisis depuis longtemps ou s'il les a choisis récemment. En fait, il a dit qu'il voulait aller en Grèce parce que c'est le berceau de la démocratie et parce qu'il veut saluer les efforts qui ont été faits par la Grèce sur l'accueil des migrants. Et puis l'Allemagne parce que c'est la grande puissance économique européenne. Certainement que le choix de la Grèce, ça tombe bien par rapport à la question effectivement de l'OTAN, du fait que Trump envisage de sortir de l'OTAN. Et voilà, mais je pense que c'était prévu avant, si je ne me trompe pas, et ce sont deux pays à forte connotation symbolique pour le président Obama, l'un pour des raisons économiques et l'autre pour des raisons plus historiques. Et sur la question des réfugiés, il veut aussi porter un message sur la tolérance, sur l'ouverture et sur les valeurs démocratiques. Après, les gens qui vont l'accueillir en Grèce en particulier auront sans doute d'autres exigences. Je sais que du côté du peuple grec et même du gouvernement Tsipras, il y a une demande de voir la dette auprès du FMI annulée. Et vu de France, on voit vraiment, comme vous, j'imagine, un contraste très fort entre toute la symbolique que Obama a voulu porter depuis 2008, un message de paix, un message de main tendue, et un contraste donc avec le nouveau président qui est beaucoup dans le clivage, qui semble mépriser les pays européens et qui n'a pas envie de leur donner des signes.
En Grèce, le président Obama a parlé du danger du populisme dans le monde. Est-ce que vous pensez que le populisme menace l'ordre mondial?
L'ordre mondial, je ne sais pas. En tout cas, en Europe, nous avons dans plusieurs pays une menace populiste d'extrême droite qui est forte, qui est due aux mêmes raisons qu'aux États-Unis, c'est-à-dire la crise économique, mais aussi le fort sentiment, ou plutôt ressentiment identitaire, la peur des migrants, la peur des réfugiés, la peur de la différence. Très grande peur et une haine même de l'islam. Et tout ça, évidemment, ça fait l'objet d'une récupération politique par de nombreux leaders de droite et d'extrême droite. Et donc, il est bien évident que quand Obama dit ça, ça a un écho tout particulier auprès des gouvernements en place en Europe. Je ne sais pas si l'ordre mondial est menacé par le populisme. En tout cas, l'Europe occidentale est menacée par le populisme, ça c'est sûr.
Marie-Cécile Nave de l'IRIS à Paris.
Cette semaine, dans Washington Forum, Donald Trump et l'Afrique. Quelle politique africaine pour le futur locataire de la Maison-Blanche? Quid des coopérations militaires sur le continent? Le candidat républicain a enchaîné les déclarations fracassantes sur l'immigration. À quoi doivent s'attendre les immigrés et les sans-papiers africains aux États-Unis? On attend vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albutson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.